Bonsoir, soyez les bienvenus dans Marque-Page. Ici, on parle littérature en tout genre. Je m'appelle Max, je suis un grand passionné de lecture et d'écriture, et j'ai décidé de vous ouvrir les portes de mon univers. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode, pour l'épisode, le dernier épisode de la saison 1 de Marque-Page. Donc c'est un épisode qui est un peu particulier puisque c'est le dernier. Je sais que j'ai pour habitude de dire ça très souvent, mais là, c'est réellement le cas. Et donc, je vous propose sans plus attendre de commencer tout de suite avec la première partie de ce podcast, à savoir la carte d'identité de l'ouvrage. J'ai complètement zappé de vous teaser de quel livre on allait parler. Alors, on va parler d'un livre assez important pour la littérature jeunesse et qui, encore aujourd'hui, à mon sens, quand on l'évoque, on voit très bien de quoi on va parler. Je parle bien sûr de Charlie et la chocolaterie. Donc, Charlie et la chocolaterie est un livre écrit par Roald Dahl. Il a été publié au Royaume-Uni en 1964. On n'a pas ni le mois ni le jour. Son titre original est Charlie and the Chocolate Factory. En France, la date de publication est malheureusement inconnue. Voilà, donc à force de faire des recherches, je ne l'ai pas trouvé. Et les versions qu'on a aujourd'hui, elles sont un peu biaisées puisqu'en fait, il se peut, voilà, comme pour le Hobbit, qu'il y ait des rééditions et qu'il y ait aussi des changements éditoriaux, comme par exemple la couverture ou toute autre chose qui s'en rapproche. Donc sa maison d'édition principale française est Folio Junior. Sa traductrice est Elisabeth Gaspard. Son genre, bien, c'est de la fantasy, et je l'ai découvert par l'intermédiaire du livre audio du même nom. Ses narrateurs sont Claude Villers, Étienne Fernagut, Sophie Wright, Muriel Flory et Catherine Autier. Et sa durée d'écoute ou de lecture est d'environ 3 heures, donc c'est assez peu hein, par rapport aux autres livres que j'ai pu écouter. Roald Dahl est un écrivain et scénariste britannique né le 13 septembre 1916 au Pays de Galles. Ses œuvres sont principalement adressées aux enfants. Il est connu pour les œuvres suivantes. Charlie et la chocolaterie, dont il est question ici. Bizarre Bizarre, qui est un recueil de nouvelles. Ou encore James et la grosse pomme, paru en 1961, soit 3 ans avant Charlie et la chocolaterie. Il décède le 23 novembre 1990 à Oxford, en Angleterre. On a assez peu d'informations sur le contexte d'écriture de Charlie et la chocolaterie. En revanche, on a des infos sur le process d'écriture de Roald Dahl, donc c'est-à-dire la manière dont il conçoit la majorité de ses œuvres. Premièrement, il s'isole dans sa cabane au fond du jardin. Donc c'est-à-dire que c'est là qu'il écrit la majorité de ses œuvres, dont Charlie et la chocolaterie. Et la particularité de cette cabane au fond du jardin, c'est que seul lui en a l'accès. Il écrit dans un endroit confortable, accompagné très souvent, voire tout le temps, par un thermos de café. Il s'installe dans un fauteuil avec un cahier posé sur un support en bois. Il s'entoure de diverses gris-gris, de notes succinctes rédigées sur un carnet de notes, puis il observe une session d'écriture approfondie sur son histoire. J'ai découvert Charlie et la chocolaterie au collège, en version audio, que j'ai emprunté au CDI. Et de cette manière-là, j'ai pu découvrir l'univers hors normes et teinté de réalisme de Roald Dahl. Ceci étant dit, c'est assez compliqué pour moi de vous parler de ce livre-là sans vous parler de ma réelle découverte de l'univers de Charlie la chocolaterie au travers du film du même nom, donc Charlie la chocolaterie, qui est un gros succès. Je parle bien sûr du film paru en 2005 et réalisé par Tim Burton. En résumé, Charlie, c'est le seul enfant de la famille Bucket, qui est une famille pauvre qui vit en Angleterre dans une seule et petite maison. Alors, quand je dis que la famille vit dans une seule et petite maison, c'est les parents de Charlie, Charlie lui-même ainsi que ses grands-parents. Le souci de cette famille, en fait, c'est qu'elle a du mal à joindre les deux bouts, donc c'est-à-dire qu'elle a du mal à vivre décemment, puisque un des éléments, puisque la famille, en fait, est déjà pauvre initialement, mais cela s'intensifie lorsque Monsieur Bucket perd son emploi à la fabrique de dentifrice dans laquelle il travaille. Charlie est passionné par la chocolaterie Wonka qui est située à côté de chez lui, mais il est un petit peu triste puisque en fait il ne peut pas s'offrir faute de moyens. En tout cas, ses parents ne peuvent pas lui offrir fréquemment du chocolat. Donc il n'en reçoit qu'à son anniversaire et son rêve. Son rêve en fait c'est de pouvoir s'en acheter. Puisqu'il adore ça. À ses yeux et aussi de manière globale, la chocolaterie Wonka est la meilleure chocolaterie du monde. Alors, la chocolaterie Wonka, pourquoi je dis qu'elle est la meilleure chocolaterie du monde ? Bah, simplement parce qu'en fait, Willy Wonka fait des chocolats qui sont un petit peu particuliers et dont il a la seule et unique propriété, c'est-à-dire qu'il fait des chocolats, par exemple, qui ne fondent jamais. Ou alors un chewing-gum qui est increvable et qui ne perd jamais son goût. Ce qui fait aussi de la chocolaterie Wonka une chocolaterie un peu particulière, c'est que seulement les créations faites dans cette chocolaterie sortent. Il n'y a aucun employé qui ne sort jamais de la chocolaterie. Jamais, jamais, jamais. Alors bien sûr, ça n'a pas toujours été le cas, hein, puisqu'il a existé un temps où des employés sortaient de la chocolaterie Wonka, simplement Willy Wonka était obligé de congédier la majorité de ses employés, si ce n'est tous, puisqu'en fait, il s'est aperçu que certaines chocolateries commençaient justement à faire ce que lui faisait et ce qu'il était le seul à faire. Autrement dit, il y avait une taupe dans les rangs qui communiquait les recettes tenues secrètes de Wonka et qui, du coup, permettait aux chocolateries concurrentes de faire les mêmes choses. Comprenant ça et sachant ça, Wonka était obligé de congédier tout le monde et d'employer des ouvriers un petit peu particuliers, les Oompa Loompa, qui sont des petites créatures qui vivent dans un endroit reculé et qui sont très férues de chocolat, et plus précisément de fèves de cacao. Ainsi, Willy Wonka les a ramenés en Angleterre et leur offre le gîte, le couvert et tout ça, en échange de, eh bien, tout simplement de leur service. Un jour, Willy Wonka décide d'ouvrir sa chocolaterie au moyen d'un concours. Ce concours-là, eh bien, il a un seul mode de sélection, ce sont des tickets d'or. Donc, en clair, Monsieur Wonka a décidé d'ouvrir sa chocolaterie à 5 enfants qui auraient trouvé, dans n'importe quelle friandise Wonka de n'importe quel pays, un ticket d'or. Et seul les 5 détenteurs des tickets d'or Wonka vont pouvoir visiter cette chocolaterie. Bien sûr, ces 5 détenteurs ainsi que leurs accompagnateurs, puisque ce concours est à destination des enfants. Et donc, c'est à partir de cet instant que la vie de Charlie va basculer. Alors, mes premières impressions, elles sont empreintes du film de Tim Burton. J'ai des difficultés à m'en détacher, mais j'attends de cette lecture qu'elle me permette de découvrir plus en profondeur l'univers de Roald Dahl et particulièrement celui de Charlie la chocolaterie, parce que il faut savoir que chaque histoire de Roald Dahl contribue à un univers global, presque un écosystème si je puis dire, mais chaque histoire développe un univers en particulier. Et donc, j'attends de cette lecture qu'elle m'en fasse voir de toutes les couleurs, littéralement. Mon analyse de ce livre va être développée autour des axes de réflexion suivants. Tout simplement, en fait, les 5 enfants qui ont gagné les tickets d'or, puisqu'en fait, il faut savoir que chaque enfant, donc qui font partie de l'intrigue principale, vont débloquer à eux seuls des sous-intrigues assez intéressantes. Et donc, du coup, c'est sur cette base-là que je vais développer mon analyse. Le premier axe ne concernera pas seulement l'enfant, mais bien la famille, puisqu'il s'agit de la famille Bucket. Donc la famille Bucket, c'est la famille du héros. C'est la famille la plus nécessitante des 5, Et la famille dont la découverte du ticket d'or va littéralement changer leur vie, puisqu'il va leur permettre de sortir de la misère. Sortir de la misère, pourquoi ? Simplement parce que Willy Wonka, en plus de proposer aux enfants de visiter la chocolaterie, eh bien, il va offrir à chaque enfant du chocolat à vie. Du chocolat et des friandises Wonka à vie. Sur simple présentation du ticket d'or, eh bien, il y aura un ravitaillement complet pour toute la famille. Donc ça, c'est sur l'aspect purement bouffe, bien sûr. Enfin, sur l'aspect purement nutritif, j'ai envie de dire. Bien sûr, ils ne vont pas seulement se nourrir de chocolat, mais bon, pour un enfant en pleine croissance, le chocolat, c'est quelque chose d'assez important, puisqu'il y a des nutriments qu'on ne trouve pas dans le chocolat. Il y a du bon sucre et du mauvais sucre, certes. Mais voilà, c'est quelque chose qui est vraiment bon pour les enfants, le chocolat, à petite dose bien sûr, et qui en plus fait largement plaisir. En plus de ça, Wonka propose une récompense en plus pour le grand gagnant. Et sans surprise, oui, il y a un gros spoil maintenant, Charlie, c'est le grand gagnant puisque c'est le seul enfant qui restera à la fin de la visite de la chocolaterie. Wonka va lui offrir à lui et toute sa famille sa chocolaterie. Ça va littéralement sauver les Buckets de la misère, puisqu'en fait, ils vont trouver un travail, enfin un travail pour toute la famille du coup, et du coup pouvoir vivre sur la fortune et générer de nouvelles fortunes pour Willy Wonka qui décide de se séparer de sa chocolaterie et de partir à la retraite. La famille Bucket, c'est également la famille la plus développée de l'histoire, donc celle dont on en sait le plus et dont les personnages sont le plus développés. Donc faisons les présentations. Donc Charlie, c'est le héros de l'histoire, dont la découverte du ticket d'or va lui faire réaliser son rêve, à savoir visiter son endroit préféré sur Terre, donc la chocolaterie Wonka. De manière globale et générale, Charlie est d'une bonté déconcertante. Il est pur, gentil, humble et tout ce qu'on veut. À mon sens, c'est lorsqu'on vit des épreuves aussi dures que la pauvreté ou qu'on est confronté à des épreuves de la vie qu'un caractère change, et c'est ce qui fait que du coup Charlie est comme il est, mais ça fait de lui un garçon adorable par rapport aux quatre autres, on le verra plus tard. L'humilité, c'est une des plus grandes différences entre chaque enfant en dehors des différences physiques sur lesquelles le lecteur n'a aucun jugement à avoir. Et pour rappel, ça me permet aussi de le dire, tous les corps sont beaux, tous autant qu'ils sont. Hein. Il n'y a pas de normes de beauté, en tout cas, il faut essayer d'en faire abstraction. Pour le deuxième enfant, il s'agit du premier à avoir découvert le ticket d'or, c'est Augustus Gloop. Celui-ci découvre le ticket d'or en mangeant du chocolat tous les jours, puisque celui-ci est prêt à tout pour gagner. Le nom Gloop est en référence au bruit que font les tuyaux lorsqu'ils l'avalent. Alors, je vais m'arrêter là-dessus, simplement sur un passage du tome. Il faut savoir en fait que Augustus Gloop ne reste que littéralement 5 minutes dans la chocolaterie. Puisque la première activité, en fait, c'est de découvrir la salle au chocolat. Et dans cette salle au chocolat, les enfants sont attirés par tout. Les enfants sont attirés par tout, d'autant plus que tout est comestible. Donc tous y vont de leur meilleure gourmandise et de leur meilleur croc, j'ai envie de dire, parce qu'ils goûtent à tout. Et on va s'arrêter 2 minutes sur le personnage d'Augustus, puisque c'est l'objet de mon propos ici. Augustus, en fait, il goûte tellement à tout, mais pas en petite quantité. Il goûte à tout et en très très grosse quantité. Il prend de la pelouse par poignée et il la mange. Et puis, il a surtout envie de goûter le chocolat qui est brassé dans la rivière à chocolat. Et Willy Wonka lui dit que c'est strictement interdit puisque seuls des tuyaux brassent le chocolat et c'est ce qui permet au chocolat d'être aussi onctueux et super bon comme il l'est dans toutes les préparations à base de chocolat de chez Wonka. Mais Augustus, comme c'est un enfant turbulent, il en a absolument rien à faire et décide de mettre sa main dans la rivière de chocolat pour boire littéralement le chocolat fondu. Sauf qu'il est tellement gourmand qu'il tombe dans la rivière à chocolat et se fait littéralement aspirer par des tuyaux qui font du coup un bruit similaire à gloup gloup gloup, puisqu'il aspire Augustus, qui du coup se fait envoyer dans une autre salle. Ses parents partent avec lui et avec les Oompa Loompa, qui sont du coup les employés de Willy Wonka, chargés de guider les parents d'Augustus vers la salle à nougatine enrobée de chocolat où se trouve du coup leur fils. Il faut savoir que les parents d'Augustus sont très angoissés puisqu'ils n'ont pas envie de retrouver leur enfant enrobé de chocolat et de nougatine. Alors bien sûr, Willy Wonka les rassure, assez peu élogieux, mais on va pas s'attarder dessus maintenant. Mais en tout cas, ils ont très peur et Willy Wonka les rassure en leur disant que ce sera pas le cas. Et qu'Augustus ne sera pas mangeable et comestible, puisque de toute façon, c'est un humain. J'édulcore quand même vachement les propos de Monsieur Wonka, puisque en fait, c'est dit en des termes plus crus, dont je ne partage pas l'idée d'ailleurs. Mais bon, il faut savoir que du coup, les propos tenus dans ce livre dépendent aussi de l'époque à laquelle ils ont été prononcés. Vraiment. C'est sûr qu'aujourd'hui, certains propos peuvent paraître choquants, mais il ne faut pas oublier le contexte dans lequel ils ont été écrits. Sachant que c'était dans les années 50, on peut s'attendre à des propos peu élogieux envers un personnage comme Augustus Gloop, qui est décrit comme étant littéralement gros. Augustus est donc le premier grand perdant de la course à la chocolaterie de Willy Wonka. Ceci étant dit, je me pose la question sur la réelle présence des encadrants au vu du nombre de bêtises faites par les enfants. On verra ça plus tard. Réellement, vu le nombre de bêtises qui sont faites, je me demande si les adultes sont réellement présents ou s'ils sont totalement effacés. De manière globale sur l'ensemble du livre, je dirais plutôt qu'ils sont effacés, mais ils sont quand même là. C'est pour ça que c'est assez étrange. On passe à la deuxième enfant ayant découvert son ticket d'or Wonka, Violette Beauregard. Violette Beauregard, elle découvre son ticket d'or au moyen d'une détermination sans faille puisqu'elle est championne de gomme à mâcher. Et à l'arrivée du coup des tickets d'or Wonka, elle décide de délaisser sa gomme de tous les records pour manger du chocolat. Violette, c'est quelqu'un d'égoïste qui est prête à tout pour la gagner. On a assez peu d'informations sur les parents de Violette, sauf que les deux parents accompagnent leur fille. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Violette, elle est entêtée, égoïste, et elle est transformée en une grosse myrtille après avoir mangé une tablette de chewing-gum repas. Donc je développe ça parce que c'est quelque chose d'assez intéressant. Willy Wonka est le premier confiseur au monde à avoir créé une tablette de chewing-gum repas. C'est-à-dire, quand vous la mangez, vous avez l'impression de manger un véritable repas complet, tel qu'on le connaît, entrée, plat, dessert. Et il se trouve que pour cette tablette-là, bah en vrai, on en était encore au stade expérimental. Elle n'est pas mise sur le marché, elle n'est pas vendable, elle n'est pas commercialisable, elle n'est pas comestible, puisque ça ne va pas. Sur les deux premières étapes, donc entrée, plat, ça va. Mais c'est sur le dessert où ça ne va pas. Donc le dessert, c'est une tarte à la myrtille. Et il se trouve que ça ne va pas puisque normalement, quand on mange un chewing-gum, il ne se passe rien. Et là, eh bien, il se passe que Violette, comme je l'ai dit tout à l'heure, se transforme en une grosse myrtille. Bien sûr, Violette, elle a fait une bêtise, donc comme Augustus, puisque Willy Wonka lui a dit de ne pas manger sa tablette puisque celle-ci était encore en phase expérimentale et donc il lui a demandé de ne pas la toucher sauf que eh bien elle n'en a fait qu'à sa tête et elle l'a mangée quand même. Résultat des courses, elle ainsi que ses parents vont être emmenés dans la salle à pressoir donc pour extraire le jus de Violette puisqu'elle est littéralement remplie de jus de myrtille. Elle va être transportée là-bas pour être pressée comme un citron et retrouver sa forme humaine ou presque. Concernant son nom, donc Beauregard, celui-ci est directement lié à une caractéristique de Violette que j'ai compris et traduit comme étant « Regardez-moi ». Ayez tous les regards braqués sur moi. En fait, Violette, c'est une enfant, donc comme chaque enfant, elle a envie d'avoir les regards braqués sur soi, qu'on ne parle que d'elle, etc., etc. Sauf que elle le fait pas de manière très intelligente, et donc du coup, ça la pousse, sans doute liée à l'immaturité de son âge, à se comporter comme une enfant et donc faire une bêtise. Elle est donc, de fait, la deuxième grande perdante, en plus d'Augustus. Rappelons que chaque enfant qui du coup fait une bêtise, est amené dans une salle différente et donc ne participe plus à la visite du reste de la chocolaterie. Donc là, si on fait le point, il reste 3 enfants et on va passer à la 3e enfant. En question, il s'agit de Verica Salt, qui est du coup la 3e à avoir découvert son ticket d'or Wonka. Verica, c'est une petite fille pourri gâtée dont le papa travaille, et c'est même le patron, d'une usine à cacahuètes. La découverte du ticket d'or se fait de manière totalement déloyale, puisque c'est son père qui lui a trouvé. En effet, Verica étant une petite fille pourri gâtée, elle demande constamment des choses à ses parents. Des choses du type un poney, 3 cygnes, enfin je sais pas, je vous dis des conneries. Mais vous avez compris l'idée. En fait, dès qu'elle veut quelque chose, elle le demande et elle l'obtient. Et pour les tickets d'or, ça a fait ça. C'est-à-dire qu'elle a vu qu'il y avait des tickets d'or. Et donc du coup, elle a demandé à son père de lui en trouver un. Son père, qui est dans une usine du coup de cacahuètes, a dit à ses employés de tout arrêter et de se concentrer sur la trouvaille d'un ticket d'or. Leur seul travail maintenant était de trouver un ticket d'or pour que le père puisse justement le ramener à sa fille. Et donc la découverte est faite de manière totalement déloyale, totalement, j'ai envie de dire, vide de sens, puisque là c'est comme si c'était le père finalement qui avait trouvé ça et qui du coup avait accès à ça. Mais Violette, à mon sens, même si c'est une enfant, n'a aucune légitimité à se retrouver dans la chocolaterie. Mais bon, son père l'a fait et c'est comme ça. Du coup, maintenant, elle se retrouve comme ça. Du coup, maintenant, elle se retrouve dans la chocolaterie. Et il se trouve que même dans la chocolaterie, elle va faire des siennes. Puisque arrivée justement dans une salle dédiée aux écureuils, elle va demander à son père si elle peut en avoir un. Son père, ne sachant pas lui dire non, décide de lui en acheter un. Sauf que Willy Wonka tient énormément à ses écureuils, puisqu'ils sont chargés de lui trouver des noix et des noisettes non pourries. Ces écureuils ne sont pas à vendre. Willy Wonka tient clairement sa position, c'est-à-dire de manière très ferme, en disant non et en disant que c'est pas possible, que ces écureuils ne sont pas à vendre et que du coup elle n'en aura pas. Verica, prenant les choses très très mal et surtout refusant qu'on lui dise non, pète une crise et décide littéralement d'aller choisir elle-même un écureuil, l'amenant à commettre une nouvelle bêtise et du coup à se faire emporter à la fosse commune, à, si on veut, la grosse poubelle de la chocolaterie, et menant ainsi ses parents à la grosse poubelle et la chocolaterie pour aller récupérer leur fille. On en est donc, si vous faites le compte, à la 3e grande perdante de la course à la chocolaterie. Concernant le nom de famille, puisque du coup j'essaye de trouver du sens dans les noms de famille de nos personnages, puisque je trouve qu'ils sont très évocateurs, eh bien j'ai compris la chose comme ça. Verica Salt s'appelle Salt car elle a un comportement salé, imbuvable, très aigri, très prétentieux, et donc du coup, je trouve que son nom de famille lui va très bien. Concernant le 4e enfant, et donc le dernier enfant dont on va parler ici, puisque j'ai déjà parlé en long, en large, de Charlie et de sa famille, même si c'est vrai, je vous ai pas fait, avec le recul, je me rends compte que je ne vous ai pas fait la présentation des adultes, mais on y reviendra plus tard à l'occasion. Donc, Mike TV est le 4e enfant à avoir découvert son ticket d'or. Mike est un enfant renfermé qui ne jure que par les écrans, comme par exemple la télévision, les consoles de jeux, etc. Et pour lui, la découverte du ticket d'or est faite de manière totalement improbable et totalement hasardeuse, puisqu'en fait, il a pris une tablette et il se trouve que ça a été la bonne. Enfin, je crois que c'est comme ça. Il se peut que ce soit autrement, et dans ces cas-là, j'ai peut-être loupé quelque chose, mais il me semble que ça s'est fait comme ça. Dans le film, je sais que c'est fait autrement, mais dans les livres, c'est pas explicité autrement. Mike TV se retrouve seul, du coup, avec Charlie, et tous les deux prennent un grand ascenseur de verre qui dessert, en fait, toute la chocolaterie. Willy Wonka propose à chacun des enfants de choisir une salle à visiter. Mike TV, qui ne laisse pas le choix à Charlie, décide d'aller dans la salle au chocolat télévisé. L'objectif de cette salle, en fait, c'est de permettre aux gens de pouvoir récupérer un chocolat, rien qu'en tendant la main, lorsqu'ils regardent la télé, en fait. Donc, ils voient une pub Wonka passer, ils tendent la main et ils récupèrent le chocolat dont la promotion est faite à la télé. Mike TV, voyant un écran et devenant complètement fou, fou d'amour pour les écrans qu'il est, il décide en fait de se faire téléviser lui-même. Oui, oui, vous avez bien entendu. Alors, se faire téléviser, pas au sens classique dont on l'entend, hein, puisque pour téléviser un chocolat et pour pouvoir justement l'attraper et le faire devenir un produit palpable, eh bien, ils utilisent un grand laser très dangereux. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils portent des lunettes. Ils utilisent un grand laser pour transformer une grande tablette de chocolat, une tablette de chocolat immense, en une tablette de chocolat faite de millions et millions, millions, millions de petits pixels qui, une fois télévisés, se rassemblent et lorsque quelqu'un tend la main, deviennent une tablette de chocolat tout à fait classique, j'ai envie de dire. Ça donnerait presque faim, à force de parler de chocolat depuis 40 minutes. Ses parents se retrouvent confrontés à un Mike tout petit. Ils doivent rester dans la salle à chocolat avec les Oompa Loompa qui vont essayer de trouver une solution pour pouvoir faire revenir Mike à sa taille adulte. Mike est donc le quatrième grand perdant de la course à la chocolaterie. Et concernant le nom de famille de Mike TV, je parle bien sûr de TV au sens de télévision, même si ça ne s'écrit pas du tout comme ça. Pour revenir rapidement sur la famille de Charlie, elle est composée de la mère et du père de Charlie, ainsi que de grand-papa George et de grand-maman Georgina, et de grand-papa Joe et de grand-maman Joséphine. Et c'est grand-papa Joe, du haut de ses 96 ans et demi, et n'ayant pas bougé de son lit depuis près de 20 ans, qui accompagne Charlie. C'est beau quand même, hein. Charlie, il a découvert le ticket d'or de manière totalement par hasard en récupérant $1 par terre. Un bâton de chocolat, puisqu'il ne s'agit pas de tablette de chocolat dans les livres, mais bien un bâton de chocolat. Un bâton de chocolat valant $0.50, il en achète 2. Dans le premier, il n'y a pas de ticket d'or et dans le deuxième, il y en a un. Si on regarde bien, des 5 enfants, Charlie, c'est au-delà du fait d'être l'enfant qui nécessite le plus et qui est le plus dans le besoin, c'est aussi un des enfants les plus discrets, un des enfants les plus humbles, les plus gentils, comme on le disait tout à l'heure, mais surtout un des enfants les plus méritants. C'est donc sans surprise qu'il est désigné grand gagnant de la course à la chocolaterie. Mon prochain focus, et ce sera le dernier avant la conclusion du coup de cette analyse, concerne Willy Wonka et les Oompa Loompa. Willy Wonka, c'est un personnage haut en couleur qui est du coup l'heureux propriétaire de la chocolaterie et le concours est organisé pour trouver son successeur. Trouver son successeur pourquoi ? Car il souhaite partir à la retraite et qu'il n'a pas d'enfant à qui léguer sa chocolaterie. Il a un comportement assez hors du commun et des agissements qui le sont tout autant. Ça rend notre lecture très drôle. Ça le rend aussi, à sa manière, attachant. Comme je le disais tout à l'heure, Willy Wonka a, pour diriger sa chocolaterie un peu particulière, des employés particuliers dont il est indissociable, les Oompa Loompa dont je vous ai parlé tout à l'heure. En conclusion, Charlie et la chocolaterie est un livre drôle qui convient tout à fait au développement de l'imagination des enfants. On observe aussi la présence d'une certaine morale qui est la suivante, à savoir que les gentils tirent toujours leur épingle du jeu à leur manière, même s'ils ne le veulent pas. C'est-à-dire que Charlie, de base, il ne voulait pas se retrouver à la tête de la chocolaterie avec ses parents, mais celui-ci étant tellement discret, tellement touchant à sa manière aussi, Willy Wonka l'a choisi comme successeur. Pour comprendre au mieux la morale, il faut se concentrer sur la personnalité des 5 enfants et sur la manière dont ils se comportent pendant la visite de la chocolaterie. Les narrateurs en quelques lignes, ou plutôt la narration en quelques lignes, puisque à livre particulier, condition d'enregistrement particulière. En effet, c'est pas ce que j'appellerais une narration univocale, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule voix pour faire littéralement toutes les voix du personnage. Là, on assiste à un enregistrement que j'appellerais du coup polyvocal, ou plurivocal, comme vous voulez, puisqu'effectivement, c'est une lecture à 5 voix. Puisque 5 acteurs et actrices français, que sont Claude Villiers, Étienne Fernagut, Sophie Wright, Madame Flory et Christine Autier, eh bien ce sont ces 5 personnes qui prêtent leur voix. Alors c'est assez particulier puisque ce sont les voix de l'ouvrage, mais on ne sait pas qui fait quoi. C'est-à-dire que c'est pas indiqué au début de l'enregistrement et du coup ça fait que chaque voix et dissociables, mais on n'arrive pas à savoir qui fait quoi. C'est pour ça que malheureusement, pour cette partie-là, j'ai assez peu d'informations à vous communiquer.
Charlie Bucket, le fils de Monsieur et Madame Bucket, le petit-fils de grand-papa Joe et grand-maman Joséphine, et de grand-papa George et de grand-maman Georgina. Toute cette gentille famille, les six grandes personnes, comptez-les, et le petit Charlie Bucket, vivaient réunis dans une petite maison de bois en bordure d'une grande ville. La maison était beaucoup trop petite pour abriter tant de monde, et la vie y était tout sauf confortable. Deux pièces seulement et un seul lit. Ce lit était occupé par les quatre grands-parents, si vieux, si fatigués. Si fatigués qu'ils n'en sortaient jamais. D'un côté, grand-papa Joe et grand-maman Joséphine, de l'autre, grand-papa George et grand-maman Georgina. Quant à Charlie Bucket et ses parents, monsieur et madame Bucket, ils dormaient dans l'autre pièce, par terre, sur des matelas. En été, ce n'était pas bien grave. Mais en hiver, des courants d'air glacé balayaient le sol toute la nuit. Et cela était effrayant.
Pour les autres œuvres inspirées de l'ouvrage, il y en a un certain nombre. Et on va commencer à remonter un petit peu plus vieux, puisqu'effectivement, on a un film de Mel Stuart qui a été fait en 1971. En 2005, on a deux œuvres qui ont été inspirées de l'ouvrage. Donc le film de Tim Burton, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, et dont on parlera peut-être à l'occasion d'un autre podcast ou d'un autre numéro de podcast. On ne sait pas. Puis, donc la même année, on a une pièce de théâtre de la troupe Andromède qui porte le même nom. Quelques années plus tard, en 2021, on a une pièce de théâtre de Ludovic Alexandre Vidal qui porte également le même nom. Concernant du coup le petit plus, je peux vous annoncer que 8 ans après la parution du premier tome, la maison d'édition anglaise, donc la maison d'édition originale britannique de Roald Dahl, décide de publier son deuxième tome, Charlie et le grand ascenseur de verre, dont on parlera plus tard. Il est assez difficile de parler de ce tome sans parler d'une phase un petit peu plus négative, donc à savoir les accusations portées à l'encontre donc de Roald Dahl et plus largement du livre. Donc ce sont des accusations de racisme et de diffusion d'idéologie colonialiste, donc à l'image de l'immigration des Oompa Loompa en Angleterre, ainsi que des propos grossophobes qui touchent directement le personnage d'Augustus Gloop. Donc ces deux accusations un petit peu polémiques ont poussé et ont fait émerger un certain débat. Donc un débat autour de la réécriture des œuvres pour enfants. Donc cette réécriture consisterait au fait de retirer en fait les passages potentiellement offensants ou dégradants à l'encontre des minorités, des personnes grosses, etc., etc. Voilà à peu près où on en est. Pour l'instant, il n'y a pas ce projet-là en France. Donc je vous mettrai en barre d'informations de ce podcast un article qui relate ces faits-là. Donc c'est un article du Parisien qui relate ces faits-là. Mais en tout cas, c'est un réel débat qui commence à émerger de plus en plus et qui pose question. D'ailleurs, j'en profite pour vous la poser. À votre avis, est-ce qu'il faudrait réécrire certaines œuvres pour enlever les passages les plus offensants ou laisser les œuvres telles quelles, donc les œuvres assez anciennes comme par exemple Charlie et la chocolaterie, et faire plus attention pour les œuvres à venir à ne pas utiliser de propos dégradants ou offensants envers des minorités. Voilà, le débat est lancé, donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire de manière bien sûr bienveillante et j'ai envie de dire non dégradante puisque c'est absolument pas le but de ce podcast. Le but de ce podcast étant d'ouvrir la discussion autour des livres qu'on a lus. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis à très bientôt pour la saison 2 du coup de Marque Page, puisque ça y est, la saison 1 est officiellement terminée. On se retrouvera simplement la semaine prochaine, non pas pour la saison 2 de Marque Page ou même pour un nouveau livre, mais simplement pour le bilan de cette saison, un bilan global qui reprendra du coup les 10 épisodes que j'ai fait. Je vous laisserai découvrir cet épisode un petit peu spécial qui servira de grand final et de bilan littéraire de cette première saison. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit ou un bon après-midi, dépendant de quand est-ce que vous écoutez ce podcast. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de continuer à lire et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre via mes réseaux sur Facebook et Instagram en tapant Le Temple des Mots. L'ensemble des liens et des comptes cités, des sources, etc. sont disponibles en barre d'infos de ce podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode de Marque Page. Pour rappel, le podcast est disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le noter, à le commenter ou encore à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.